DW. Droits et libertés.
Il y a 10 ans, souvenez-vous, le groupe État islamique répandait la terreur sur de grands pans du territoire irakien et en Syrie. Plus de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur maison. Des villes comme Mossoul ou Raqqa ont été presque totalement détruites. Aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, les traces du passage de Daesh restent visibles et certains habitants des villages kurdes du nord de l'Irak notamment continuent d'être en danger au jour le jour, même après le départ des terroristes. C'est là que nous allons partir en seconde partie de cette émission, mais pour commencer, on se rend en Angola où la présidence de João Lourenço n'est pas aussi exemplaire que ce qu'on pouvait espérer en matière de droits humains et de démocratie. Sandrine Blanchard au micro, bonjour. Et bienvenue tout le monde.
Monsieur le Président, si vous souhaitez réellement un pays démocratique et agréable à vivre pour tous les Angolais, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Faites demi-tour. Vous vous trompez de chemin. Rogner sans cesse les droits fondamentaux, cela constitue un danger pour l'Angola et les Angolais.
Angola et les Angolanos.
Cet appel, Florindo Chivukute l'a lancé aux autorités angolaises et plus particulièrement à celui qui cumule les fonctions de chef d'État et de gouvernement, João Lourenço. Florindo Chivukute préside l'ONG des Amis de l'Angola, basée à Washington, aux États-Unis. C'est dans ce pays qu'il a suivi des études sur l'analyse et la résolution des conflits. Il tient un blog dans lequel il fait part de son inquiétude pour la démocratie dans son pays d'origine. Selon lui, le président João Lourenço empiète de plus en plus sur les droits des Angolais. Alors, en premier lieu, ce militant réclame la libération de tous les prisonniers politiques. Alors, il n'est pas sûr du tout que son appel au président soit entendu. D'ailleurs, le gouvernement angolais ne reconnaît même pas l'existence de prisonniers d'opinion. Pourtant, depuis des années, les organisations de défense des droits humains dénoncent la répression et même les persécutions subies par les opposants et les voix critiques en Angola. Il y a 4 jeunes militants qui incarnent cette répression. Adolfo Campos, Tanaïs Neutro, Gildodas Ruas et Abraão Pensador. Il y a 9 mois, chacun de ces 4 jeunes gens a été condamné à 2 ans et 5 mois de prison pour trouble à l'ordre public et insulte au président. Leur tort, simplement avoir pris part à une manifestation de solidarité avec les chauffeurs de taxi qui se plaignaient de la hausse des prix du carburant. En prison, les 4 jeunes gens subiraient des mauvais traitements. Leurs proches et des ONG dénoncent un verdict politique. Une pétition circule en ce moment pour réclamer leur libération. Et parmi leurs soutiens figure le rappeur Jaime MC. Il est membre du mouvement citoyen Modei qui appelle au changement.
On veut que la cour d'appel se prononce en faveur de la libération des prisonniers politiques et tous ceux qui les ont condamnés arbitrairement doivent rendre des comptes devant la justice.
Simão Kativa milite lui aussi pour la libération des prisonniers, notamment donc des 4 jeunes hommes détenus dans la prison de Kalomboloka, près de Luanda, un établissement qu'il a visité il y a peu. Et selon lui, Tanaïs Neutro serait dans un état de santé critique et Adolfo Campos aurait des problèmes de vue et aurait besoin d'une opération urgente des yeux. Les 2 prisonniers ne bénéficient apparemment pas de soins médicaux adaptés. Mais leur cas n'est pas isolé. Depuis la réélection de João Lourenço pour un 2e mandat de président, c'était en septembre 2022, les arrestations arbitraires auraient fortement augmenté dans le pays. Le gouvernement a décrété l'année dernière un nouveau statut des ONG plus répressif qui a été adopté en première lecture au Parlement. Le MPLA, qui est le parti présidentiel, dispose d'une majorité absolue au Parlement. Il a proposé une loi qui oblige les ONG à publier le détail de leurs sources de financement. Mais le contrôle de ces déclarations serait effectué par une autorité placée directement sous les ordres du gouvernement. est censé officiellement lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sauf qu'au moindre soupçon émis par cette autorité, les activités des ONG peuvent être suspendues, et c'est à la fois ce pouvoir énorme confié à une autorité pro-gouvernementale dans les faits et dans ce contexte tendu qui sont critiqués par les associations. Pour le rappeur James MC, ça constitue une intrusion inadmissible dans le travail des ONG.
C'est une loi absurde, anticonstitutionnelle et antidémocratique, et ce n'est qu'un début. Or, les ONG sont capables pour donner une voix aux citoyens réprimés et aux prisonniers politiques.
Précisons toutefois que la loi n'a pas encore été votée de façon définitive, mais les ONG craignent que ce processus soit difficilement réversible. Les militants des droits humains en Angola reprochent au gouvernement d'agir davantage pour défendre les intérêts du parti présidentiel, le MPLA, que dans l'intérêt général, qu'il s'agisse de l'école, de la presse ou même de la gestion des entreprises publiques. Un autre projet est particulièrement décrié par la société civile comme une tentative du MPLA de garder la main sur le fonctionnement du pays. C'est une réforme administrative qui est prévue avec une partition, par exemple, de la région de Luanda, la capitale. Et certains y voient une volonté de contrer les succès électoraux remportés dans la région par l'UNITA, qui est le principal parti d'opposition.
Sima
Formiga, étudiant en droit.
Je ne vois aucune nécessité de partition de la région de Luanda. D'un point de vue démographique, cette province n'est pas particulièrement importante. Je pense que cela est surtout une stratégie du parti au pouvoir pour redessiner à son profit la carte électorale avant les élections municipales de 2025.
La tête de file de l'UNITA dans l'opposition donc s'appelle Adalberto Costa Junior. Lui aussi partage ce point de vue, car pour l'instant, la province de Luanda regroupe plusieurs fiefs où l'UNITA remporte des scores élevés aux élections et la partition permettrait de scinder les circonscriptions pour affaiblir localement l'opposition.
La partition de Luanda ne poursuit qu'un seul objectif, empêcher l'UNITA de remporter les prochaines élections locales. C'est la seule raison.
Lors des législatives de 2022, le MPLA s'est retrouvé derrière l'UNITA dans la province de Luanda. L'UNITA qui a remporté plus de 62% des voix dans cette province. Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. Rendons-nous maintenant dans le nord de l'Irak, toujours hanté par le souvenir de la guerre. Les ruines des bâtiments détruits il y a 10 ans lors de l'avancée du groupe État islamique sur Mossoul sont encore visibles. Les localités autrefois animées sont devenues des villes fantômes. Pendant 3 ans, Siham Fairouz a vécu dans la peur de Daesh. Pendant 3 ans, cette Irakienne n'a pas osé sortir de chez elle. Des combattants armés patrouillaient alors dans les rues, enlevaient des jeunes filles alors qu'elles étaient en cours à l'école et infligeaient des châtiments brutaux et publics à tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui contrevenaient selon eux à la loi islamique qu'ils avaient édictée.
J'ai entendu des coups de feu, j'ai couru dehors et c'est là que j'ai trouvé mon mari mort. Il est mort dans mes bras. Daesh m'a volé ma jeunesse. Mon plus grand rêve, c'était d'étudier, mais les terroristes ont détruit chacune de mes journées. Je ne veux pas que quiconque revive ce que Daesh m'a infligé, ni que quiconque ne voie ce qu'ils ont laissé derrière eux en partant.
Le groupe État islamique a laissé des souvenirs traumatiques, mais aussi des ruines qu'on voit encore 10 ans plus tard, des villages entiers qui sont détruits et qui recèlent des dangers cachés.
This village was at the front line of the battle between ISIS and the Kurdish forces.
Une nuit, les gens ont reçu un appel téléphonique disant que le groupe État islamique était à une demi-heure d'ici et presque tout le monde a réussi à s'enfuir. Ils ont fini par arriver par ces collines et ont tiré sur tous ceux qui se trouvaient encore dans le village. Lorsque les habitants ont réussi à revenir, des années plus tard, ils ont trouvé leur village complètement détruit et couvert de mines antipersonnelles.
Mouayad Mohsen était Peshmerga, ça veut dire qu'il a combattu Daesh à cette époque. Il raconte que les militants ont piégé sa maison et d'autres maisons avec des explosifs. Il a vu plusieurs villageois mourir dans des explosions. L'Irak est l'un des pays les plus minés au monde. Ces dernières décennies, des champs de mines ont vu le jour un petit peu partout dans le pays au fil des différentes guerres. Les générations futures devront donc débarrasser l'Irak de ce fléau, mais les opérations de déminage ont déjà commencé. Des brigades de volontaires, notamment constituées des habitantes de la région, ont vu le jour pour s'atteler à cette tâche hautement délicate. Et Siham, qu'on entendait tout à l'heure, fait partie de ces bénévoles. Pour elle, c'est un objectif dans la vie d'éradiquer jusqu'à la moindre trace de Daesh dans sa région. Alors, avec son équipe, Siham écume le sol avec des détecteurs de métaux. Un seul faux pas et c'est la mort quasi assurée.
On n'est pas là seulement pour sauver nos propres vies, mais aussi celles de beaucoup d'autres gens. On veut que les gens puissent revenir, que leurs enfants se remettent à jouer, qu'ils puissent tout simplement sortir, se promener, sans avoir constamment la peur au ventre.
Et Siham explique en souriant qu'à chaque mine qu'elle parvient à désamorcer, une partie de son cauchemar s'efface un petit peu plus de sa mémoire. C'est la fin de ce magazine. Merci à Salim, à Sierra Thierry, à Antonio Cascais et à Boraglio Ndomba pour les sons. Si vous souhaitez réécouter, commenter, partager, télécharger cette émission, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.